Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint,
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Vilnius. En effet, à l'occasion de la saison de la Lituanie qui vient de s'ouvrir en France pour 3 mois d'événements culturels sur tout le territoire, spectacles, expositions, concerts, conférences et bien entendu rencontres littéraires, je vous propose aujourd'hui une émission spéciale à la découverte des auteurs lituaniens dans leur pays. Vous entendrez donc tout au long de ce reportage enregistré sur place quelques-unes des voix majeures de cette littérature contemporaine qui est de plus en plus traduite en français. Ainsi, la romancière Kristina Sabalauskaitė, autrice de L'impératrice de pierre, une saga historique qui s'est vendue à plus de 80 000 exemplaires en Lituanie, Undinė Radzevičiūtė, autrice de La bibliothèque du beau et du mal, mais aussi le poète et essayiste Tomas Venclova, avec la participation de Miglė Dulskytė, traductrice, Marielle Vituro, journaliste, correspondante de RFI et traductrice, ainsi que Thierry Clermont, qui vient de publier Vilna Tango chez Stock. Et c'est d'ailleurs avec Thierry Clermont que nous commençons cette balade littéraire dans Vilnius, riche de plusieurs siècles d'histoire, marquée aussi par de nombreuses occupations polonaises, allemandes et soviétiques, et qui est la capitale d'un pays qui s'est toujours battu pour son indépendance, acquise définitivement depuis 1990. Un pays, la Lituanie, qui est aussi toujours présenté comme l'un des 3 pays baltes, avec l'Estonie et la Lettonie, alors que son identité, sa culture, sa langue sont bien singulières. Comme le rappelle dans cet état des lieux, Thierry Clermont, rencontré au cœur de Vilnius.
La Lituanie n'a rien à voir avec ses 2 voisins, ça il faut bien le préciser. C'est une convention, on dit les pays baltes, les 3 pays baltes. À part la géographie commune, il n'y a pas grand-chose de commun ou à partager, parce que les 3 langues sont complètement différentes. Et la Lituanie se situe à un carrefour avec la Pologne, la Biélorussie et la Russie. Donc c'est une ville carrefour, une ville d'accueil depuis des siècles. C'est une ville qui a accueilli depuis des siècles une très très importante communauté juive, qui a accueilli des Tatars de Crimée, des protestants luthériens, évidemment, et aujourd'hui des réfugiés ukrainiens, évidemment, qui sont un peu plus de 80 000. Donc rapporté à la population, c'est comme si la France en accueillait 1,5 million ou 2 millions. Hein. Voilà.
Ce qui frappe aussi quand on se promène dans Vilnius, c'est à la fois la beauté de l'architecture. C'est une ville qui a été préservée, Dieu merci, par la guerre dans le sens où elle n'a pas été bombardée, même si elle a payé un très lourd tribut humain à la guerre et aux occupations soviétiques et nazies. En rendent compte en effet ces musées et cette mémoire du peuple juif dont vous parlez beaucoup dans votre roman Vilna Tango. Et ce qu'on sent aussi, c'est une espèce de fierté. Petit pays, 3 millions d'habitants, mais néanmoins, cette indépendance qu'ils ont arrachée en 1990 de l'Empire soviétique, on sent à quel point ils y tiennent, ces Lituaniens.
Oui, bien sûr. La Lituanie a été la première république soviétique socialiste en 1990 à déclarer son indépendance. Le pays était annexé donc de force en 1944, au moment du départ des nazis. Ça s'est fait un peu dans la douleur et le sang, cette proclamation d'indépendance du temps de Gorbatchev. Parce qu'évidemment, elle était refusée dans un premier temps par les autorités soviétiques. Et les Lituaniens ont gardé cette mémoire historique. Ils rappellent assez souvent que durant le Moyen-Âge et l'équivalent de notre Renaissance, la Lituanie était un grand-duché associé à la Pologne. Associés au royaume de Pologne, ils avaient créé une espèce de, dès le XIVe siècle, un embryon de Commonwealth, en fait une espèce de confédération, je pense que le mot est le bon, une confédération polono-lituanienne qui formait un véritable empire. c'est-à-dire qui était l'équivalent du Saint-Empire germanique. Et cet empire s'étendait de la Baltique jusqu'à la mer Noire. Donc en résumé, cette confédération était formée donc, par la Lituanie, évidemment, le sud de la Lettonie, par la Biélorussie, par la Pologne, bien sûr, l'Ukraine, jusqu'en Crimée. Vous voyez un petit peu l'étendue de géographique. Et à l'époque, la Russie n'était pas du tout, n'était pas un empire. C'était, il y avait Moscou. Et comme tous les empires, ils sont destinés à décliner et à disparaître. Et les gens, quand même, gardaient cette mémoire d'une grandeur historique, avec une constitution proclamée en 1791. Et ensuite, il y a eu un nouveau partage de la Pologne. Et évidemment, la Pologne et la Lituanie ont été absorbées, annexées, occupées, douloureusement et de façon souvent tragique, par les tsaristes.
Et puis, une deuxième indépendance en 1918, oui. Et à nouveau chahutée par l'histoire. Occupation dont on vient de parler, et enfin cette troisième indépendance en 1990. D'une certaine façon, c'est un peu un pays jeune aussi, Thierry Clermont.
Oui, pour un Français, c'est presque un paradoxe, parce que à la fois, c'est un pays vieux, de par son histoire, de par sa littérature, sa culture, et un pays jeune qui fait partie de l'Union européenne depuis 20 ans, ça faut le rappeler. En 2004, la Lituanie rejoint l'Union européenne, la monnaie c'est l'euro ici, elle rejoint l'OTAN la même année, comme les autres pays de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne, etc. Donc c'est une façon de renouer avec un passé européen. Les gens ici n'aiment pas trop qu'on dise que voilà, vous êtes un pays de l'Est, vous faites partie des pays de l'Est. Et eux vous répondent, franchement, on n'a rien à voir avec le Kazakhstan ou l'Azerbaïdjan. Nous, on est européens, comme on l'a toujours été. Voilà. Et donc, il y a, moi, j'ai entendu des auteurs, des artistes, des écrivains, des intellectuels, dire non, non, nous, on n'est pas Europe orientale, ex-URSS. Ça, c'est une parenthèse dans notre longue histoire. Nous, on est des Européens, tout simplement.
Européenne, l'écrivaine Cristina Zabalos Keïta l'est sans conteste. Historienne d'art, elle est installée depuis plus de 20 ans à Londres, mais pourtant c'est une star en Lituanie, puisque ses romans historiques ont un succès phénoménal. Plus de 80 000 exemplaires vendus pour sa saga L'impératrice de pierre, qui retrace le parcours exceptionnel de Catherine, née Marta Elena Skoronska, épouse de Tsar Pierre Ier. Une orpheline lituanienne, Cendrillon du XVIIIe siècle, qui a régné sur l'Empire russe. Une figure qui permet à la romancière d'aujourd'hui de remettre en lumière les origines lituaniennes de cette femme que la grande histoire a un peu oubliée. Cristina Zabalos Keïta.
She was known to certain scholars. First of all, Russian scholars, and I had been fully fluent in Russian. I had the privilege of being able to use also the published Russian.
Elle était connue de certains universitaires russes pour commencer, et j'ai eu la chance d'avoir accès à des archives et des ressources en langue russe. Mais elle était toujours considérée comme un personnage secondaire après Pierre Ier, pour la simple raison qu'elle n'avait pas eu d'influence politique durant son court règne de quelques années. Mais pour moi, elle était très intéressante. D'abord, comme épouse, dont le mariage avait été très difficile dans l'ombre d'un grand homme, d'un grand empereur, et ensuite comme européenne qui voyait Pierre et la culture russe d'un œil occidental.
It was quite easy to reconstruct her voice through her dictated letters, but also through the testimonies of her contemporaries.
Il a été assez facile pour moi d'entendre et de restituer sa voix grâce aux lettres qu'elle avait dictées, mais aussi aux témoignages de ses contemporains, les ambassadeurs, les gens de la cour, qui la mentionnent à certaines occasions. Et elle est décrite comme une personne forte, très sûre d'elle-même, avec une intelligence des émotions.
Est-ce que vous l'admirez?
I think I admire her biography. Her ascendance from such low origins to such a high position as the first Empress of Russia, who in fact opened the way for...
Je pense que j'admire son parcours, son élévation sociale à partir d'origines si pauvres. Comment elle est devenue la première impératrice de Russie et de fait, comment elle a ouvert la voie aux impératrices suivantes, dont Catherine, la seconde. Mais l'impression qu'elle m'a finalement laissée, c'est que plus elle s'est élevée au sommet de la hiérarchie, plus elle s'est laissée corrompre par le pouvoir et par les Russes. À la fois une ascension personnelle et une détérioration de sa personnalité.
L'impératrice de Pierre a été un immense succès ici en Lituanie. Est-ce que vous avez été surprise par cet accueil aussi chaleureux?
First of all, I wrote a historical saga Silvarerum in four volumes, which was also very successful.
Avant, j'ai écrit une saga historique Silvarerum qui a eu énormément de succès en Lituanie, ce qui m'a procuré un socle solide de lecteurs fidèles qui attendaient mes nouveaux livres. Et même si Silvarerum ne comportait aucun dialogue et que l'impératrice de Pierre est écrite à la première personne, le roman a eu aussi du succès.
I also was very pleasantly surprised by the reception abroad and first of all in France.
Ce qui m'a surprise, c'est l'accueil à l'étranger et pour commencer en France, ce qui a été pour moi un grand honneur parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai été très influencée par la littérature française et Maurice Druon. À 14 ans, quand je le lisais, je me disais ça, c'est le grand roman historique.
Les rois maudits.
Les rois maudits.
De Maurice Druon, en effet. Qu'est-ce que le succès de ce livre dit aussi sur la situation contemporaine?
The very sad thing was when this book came in Lithuania in 2019, there were a few skeptical, critical voices saying, oh,
le plus triste, c'est que ce roman est sorti en Lituanie en 2019 avec quelques critiques un peu sceptiques qui disaient que ce livre était vraiment anti-russe. Et malheureusement, quand la guerre est arrivée en Ukraine, ce roman est devenu presque prophétique parce qu'il y a plusieurs scènes que vous pouvez lire comme si c'était aujourd'hui. Par exemple, la destruction de la ville ukrainienne de Batourine au XVIIIe siècle, c'est comme celle de Mariupol.
And it sounds like I'm describing today, like nothing has changed. So for me, it was a compliment that I sort of grasped.
Et tout ce que je décris, c'est comme si rien n'avait changé depuis. Pour moi, c'était la confirmation que j'avais bien saisi la tension, la violence de la culture russe, mais j'aurais préféré que cela n'arrive jamais.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je suis presque certaine d'avoir été empoisonnée, peut-être par Alexandre et assurément par le pouvoir. Il s'insinue en vous comme un poison, par la bouche, le nez, les yeux, par tous les orifices de votre corps, jusqu'à ce qu'il soit impossible de vivre sans lui. Tout ce que vous faites est dicté par votre désir de le conserver. Ce n'est plus vous qui gouvernez, mais le pouvoir en votre possession qui vous gouverne, comme si vous étiez une marionnette. Quand vous vous élevez au point de ne pouvoir aller plus haut, tout ce que vous pouvez faire, c'est chercher à rester en équilibre sur ce sommet. Vous vous réveillez et vous vous couchez avec une seule pensée en tête. Comment ne pas céder votre place? Comment ne pas chuter? Qui d'en bas pourrait être en train de vous secouer? De quel côté viendra le danger? Vous ne faites plus ce qui peut vous aider à y rester? Au sommet du pouvoir, où il y a si peu de place, il faut se montrer forte, inébranlable, ne jamais faillir. C'est un poison qui s'insinue si profondément en vous que vous devenez comme intoxiqué. Ni les plus belles fleurs et sculptures de votre jardin, ni le luxe, ni la musique, ni la danse, ni les mets, ni le vin ne vous procureront de plaisir, car jamais vous ne perdez de vue qu'à la moindre distraction, quelqu'un vous fera tomber. Vous êtes une bête traquée par les chasseurs. Votre odorat et votre ouïe s'aiguisent. De même que votre désir sanglant de survivre, de saisir à la gorge celui que ne vous a pas encore mordu. Et vous devenez vous-même venimeuse. Chaque minute passée à lutter pour votre survie est empoisonnée. Vous ne vivez plus, vous luttez.
Extrait de L'impératrice de Pierre, lu par Marielle Vitureau, qui a traduit ce roman du lituanien en français pour les éditions de La Table Ronde, où il a paru en deux volumes. Marielle Vitureau, que nous retrouvons tout de suite, car cette journaliste, correspondante de RFI dans les Pays-Baltes, installée en Lituanie, est l'une des très rares traductrices de la littérature lituanienne. Pourquoi si peu de titres en France ? Explication.
Il y en avait peu, il y en a de plus en plus grâce à cette saison culturelle et un travail fait depuis un certain temps par l'Institut culturel lituanien qui invite de nombreux éditeurs français à venir au Salon du Livre, à rencontrer les auteurs, à faire connaître la littérature lituanienne. De manière générale, il y a une plus grande ouverture vers l'Allemagne, il y a énormément de titres qui sont traduits vers l'allemand, mais c'est aussi parce que la littérature lituanienne, c'est assez peu de romans, c'est beaucoup de nouvelles ou de formats courts qui trouvent plus un public en Allemagne qu'un public en France. Mais de plus en plus, la situation change et ces deux dernières années, de nombreux titres ont été traduits, autant des classiques lituaniens qu'une littérature un petit peu plus contemporaine.
Mais est-ce que d'une certaine façon, s'il y avait jusqu'ici peu de traductions du lituanien en français, c'est aussi parce qu'on peut dire que c'est une littérature jeune ?
Oui et non. Il y a certains classiques qui ont un certain âge, qui n'ont pas forcément été publiés pendant la période soviétique, qui l'ont été dans les années 90. Je pense que le manque de traduction vient aussi du manque de traducteurs, parce que le lituanien n'a enseigné qu'à l'INALCO, et comme c'est une vieille langue indo-européenne qui est très peu parlée, c'est surtout une langue qui est appréciée par les linguistes et peu comme une langue qui sert à communiquer, en fait. C'est plus comme une langue à étudier, parce qu'il y a de nombreuses caractéristiques archaïques de la langue, en fait. Donc je pense que ça a desservi le lituanien comme langue de traduction, je pense.
Et d'ailleurs, ici, on entend qu'il y a certes une littérature lituanienne, mais aussi une littérature de Lituanie. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette subtilité?
Peut-être dans le sens où il y a des auteurs d'expression, par exemple polonaise, qui ont écrit sur la Lituanie, puisqu'ils étaient originaires de cette région, qui a été aussi longtemps une région polonophone. Donc il y a une littérature qui parle de Lituanie, mais d'expression polonaise très classique. Le plus récent est par exemple l'auteur Czesław Miłosz ou Tadeusz Koniewiczki, etc., qui ont parlé de la Lituanie, mais en polonais, par exemple.
Et vous, Marielle Vituro, qui vivez à Vilnius depuis longtemps et qui connaissez bien cette culture lituanienne, quel est votre auteur ou autrice préférée? Celui que vous aimez lire ou que vous aimez traduire?
J'aime beaucoup, c'est quelqu'un d'autre qui l'a traduit, mais j'aime beaucoup le roman Le linceul blanc, puisque on parle de cette migration lituanienne après la guerre. C'est un roman qui parle à la fois de la Lituanie, mais aussi de la migration, de l'émigration lituanienne à l'étranger après la guerre, de ce que la guerre a fait sur la Lituanie et sur les Lituaniens. Et on sort aussi d'une certaine tradition peut-être rurale dans la littérature lituanienne, et la ville arrive en littérature.
Le linceul blanc dont vient de nous parler Marielle Vituro est un roman d'Antanas Szkema paru aux éditions Cambourakis dans une traduction de Miglé Dulskité qui lit ici un extrait de ce classique où l'on entend la voix d'un Lituanien exilé à New York où il est liftier.
Un jour j'ai quitté une petite ville provinciale pour gagner une métropole miniature, Kaunas. Des filles modestes se coiffaient les cheveux, mettaient de rouge à lèvres, leurs hanches se soulevaient sur des talons hauts. Et rugissait rien qu'en sentant la chaleur de la liqueur. Je ne parvenais plus à retrouver la plus agréable des folies. Tu avances dans les marécages, des osiers verts se balancent, et de l'autre côté du lac, tu aperçois la pureté d'un corps bronzé. Oui, toi, tel un voyant plongé dans une boule de cristal. Je ne retrouvais plus le pieux mensonge. Lisse histoire de mon père, les écrivains pour la jeunesse, les chants scouts, les mauvaises holographies de petits anges repents par un optimiste inapte. Je n'arrivais plus à rêver. Je savais que le seul moyen de rêver était de tout mettre par écrit. Enfin, un écrit codé, pour que des amis, des critiques pointilleux ne puissent pas t'alerter. Messieurs, vous sombrez dans le sentimentalisme. Souvent, je voulais pleurer devant une fleur éclose, le reflet de la lune sur la surface de l'eau, des cheveux blonds ébouriffés par un vent printanier. Je voulais même pleurer devant une mouche bourdonnante. Mais, interdit.
Thank you.
Autre rencontre à Vilnius avec l'écrivaine lituanienne Undinė Radzevičiūtė, lauréate du prix européen de littérature en 2015. Une voix très singulière, comme en témoigne son roman le plus récent, paru aux éditions Viviane Amy sous le titre « La bibliothèque du beau et du mal ». Dans une traduction de Margarita Le Borgne, l'histoire sombre d'un collectionneur dont un des livres est relié avec de la peau humaine. Détail avec l'autrice.
Šio romano veiksmas vyksta Veimaro Respublikos Berlyne.
L'action se passe sous la République de Weimar, en Allemagne, à Berlin, et le personnage principal est une personne cynique, intellectuelle et maniaque qui veut créer une bibliothèque spéciale avec des livres qui sont couverts de la peau humaine.
Nietzsche jau paskelbė, kad Dievas mirė.
À l'époque, déjà, Nietzsche a déclaré que le Dieu est mort, donc tout est permis dans ce monde. Et Berlin est un lieu idéal pour cacher tout crime possible.
Donc, il est question de bibliopégie anthropodermique. Cela existe vraiment ?
Oui, ça existe. J'ai entendu au moins deux cas de cela. Mais ce livre que je mentionne dans mon livre, c'est le livre de Marquise de Sade qui est couvert de la peau d'une aristocrate guillotinée, ceci n'existe pas, mais ça pourrait exister quand même.
Pourquoi est-ce que vous citez le Marquis de Sade ? Est-ce que c'est une lecture qui vous a marqué particulièrement ?
Oui,
tout d'abord, j'ai pensé à ce personnage qui hérite une telle bibliothèque avec un livre couvert de la peau humaine. Et donc j'ai entendu parler d'un premier livre de Marquise de Sade qui a été couvert avec la peau d'une aristocrate guillotinée.
O su Marquise de Sade, aš susidūriau pasibaigus po to, kai tiksliau Lietuva išstojo iš Tarybų sąjungos ir tada Lietuvoje atsirado daug knygų, kurios
anksčiau buvo trouver un livre de Marquise de Sade lorsque la Lituanie a quitté l'Union soviétique et les livres interdits ont apparu sur le marché. Donc j'ai acheté un livre qui s'intitulait « Les boudoirs de Thérèse » ou quelque chose comme ça et ce livre m'a vraiment marqué.
C'est un roman gothique avec beaucoup d'humour noir. Est-ce que c'est votre style pour tous vos livres ou c'est particulièrement pour ce roman-là ?
Tai greičiau ne gotikinis romanas, o noiras.
C'est pas vraiment un roman gothique, c'est plutôt un roman noir.
Kai aš labai dažnai kalbu apie gotiką ir sakau, kad labai daug ką perimu iš gotikos architektūros ir perkeliu tai į literatūrą. Aš turiu omeny, kad
Lorsque je parle de la gothique, il s'agit plutôt de la structure, ce que je reprends lorsque j'écris mes livres. Dans l'architecture gothique, ce qui était important, ce n'était pas les murs, mais les structures. Et je fais la même chose avec mes livres. Donc j'ai créé la structure et je la remplis. Chez moi, elle est remplie de dialogues, comme de même manière les architectes à l'époque remplissaient les arches avec les vitrages et les fenêtres.
Mais d'où vous vient cet humour noir ?
Je pense que c'est quelque chose que j'ai hérité, ça fait partie de ma génétique.
Est-ce que c'est lituanien aussi ?
Non,
moi j'ai fait un test génétique et j'ai découvert que mes aïeux étaient de 10 nationalités différentes.
Est-ce qu'on peut faire une lecture politique et contemporaine de ce roman ?
Šitas romanas, kai jis buvo išleistas 2020 metais, jis, aš sakiau, kad tai yra
Lorsque j'ai publié ce roman en 2020, j'ai dit qu'on vivait dans une sorte République de Weimar 2.0, une version numéro 2.0. Donc Dieu est mort et tout est permis et tout cela se termine par une guerre et on a vu cela aujourd'hui.
Et de quelle guerre vous voulez parler ?
Apie karą Ukrainoje.
Il s'agit de la guerre en Ukraine.
Vous vous sentez concerné?
Be jokios abejonės, visus gyventojus Lietuvos tai liečia labai stipriai.
Oui, sans doute, cela touche énormément tous les Lituaniens dans notre pays.
Et pour finir, je vous propose d'écouter la voix de l'essayiste et poète Tomas Venclova, sans doute l'aîné de tous. Il vient tout juste de fêter ses 84 ans. Après ses études à Vilnius, il a vécu à Moscou, mais a quitté l'URSS en 1977 pour devenir professeur à Yale aux États-Unis. Traducteur de nombreux poètes en lituanien, il est lui-même auteur de plusieurs recueils, dont deux ont paru aux éditions Circé, dans une traduction d'Henri Abril. Et ici, en exclusivité, il lit un extrait dans sa langue maternelle d'un de ses poèmes, inspiré du peintre Nicolas Poussin.
Nesislėpk nuo lemties, džiaukis diena, druskos prisodrinta, putų juosta, kuri smėlio grūduos, žymi atoslūgiai, vėjais kabo lapus, šiaušia žolės. Ardo laužavietę, jie juoduoja toli, gūbrio viršui, tartum akidomi. Daug skaistesnis dangus, dievo delnai, taršo žvaigždėlapį. Visą naktį šviesų, baltų varių, blykčioja lapkritis, leonidų griūtis, miestos lenkščius, daužos keveldromis. Judvilypiai liepsnoj, rėda mirtin, skardžiai ir sąsiauriai. Thank you.
Ačiū.
Ačiū.
Achou, qui veut dire merci en français. Et j'en profite donc pour remercier à mon tour toutes celles et ceux qui m'ont aidé lors de ce reportage à Vilnius. Achou donc à toute l'équipe de l'Institut culturel lituanien à Vilnius, Miglė Dulskytė, coordinatrice de la saison de la Lituanie en France, et Véronica. Merci aux autrices, aux auteurs, toutes les références de leurs livres et de leurs rencontres prévues en France sont sur la page de Littérature sans frontières sur le site de RFI.fr. Et merci aussi à Thierry Clermont qui m'a guidée dans les rues de Vilnius et que nous retrouverons prochainement pour parler de son récit consacré à la capitale lituanienne paru aux éditions Stock sous le titre Vilna Tango. Ačiū à toutes et à tous.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.